La Grenouille vous propose des lectures d'extraits de deux livres du célèbre journaliste polonais Kapuściński. Ébène, écrit en 1998, et Il n'y aura pas de paradis, écrit en 1978, initialement publié sous le titre La guerre du foot. Mort en 2007, Kapuściński a parcouru l'Afrique en tant que reporter pendant la période des indépendances. J'apprends que le Congo est agité par une tempête d'envergure mondiale. On est au début du mois de juillet 1960. Le Congo, le pays d'Afrique le plus fermé, le plus inconnu, le plus inaccessible, vient d'acquérir l'indépendance, provoquant aussitôt une révolte de l'armée, la fuite des colons, l'intervention des parachutistes belges, l'anarchie, l'hystérie et le massacre. La une de tous les journaux reprend ce millimélo indescriptible.
In memoria de Patrice Lumumba.
Je suis originaire de la province du Kasaï, que vous connaissez certainement. Et je suis président d'un parti politique, le Mouvement National Congolais, qui a rapporté la victoire aux dernières élections. Je suis Premier ministre de la République du Congo, comme vous le savez. Notre gouvernement, c'est un gouvernement national, populaire, qui représente toutes les factions de l'opinion congolaise. Et nous luttons pour un idéal, qui est la construction du Congo dans l'unité et la concorde nationale.
Lumumba. Hier, cet homme était chez nous. Ils sont arrivés à quatre dans une voiture couverte de boue. La voiture s'est arrêtée devant le bar. L'homme est entré pour boire une bière. Les trois autres se sont dispersés dans la petite ville. Le bar était désert. L'homme s'est assis tout seul et a bu une bière. Le serveur a mis un disque. Bill Haley chantait « See you later, alligator ».«
Ce n'est pas la peine »,
a dit l'homme assis à la petite table. Le serveur a arrêté le disque. Les trois autres sont arrivés.
« C'est bon ?»
a demandé l'homme.
« Oui. »
Ont-ils répliqué et ils sont sortis tous les quatre. Sur la place, les gens les regardaient marcher. En tête, un homme grand, mince, et derrière lui, trois hommes trapus, avec de longs bras. Les jeunes filles se sont mises à jouer des coudes, car l'homme mince leur plaisait. L'homme mince a souri. D'abord aux filles, ensuite aux autres, puis il a commencé à parler. Nous ne le connaissions pas. Généralement, nous connaissions tous ceux qui venaient parler. Mais celui-là, nous le voyions pour la première fois. Avant, c'était un blanc qui venait ici. Il s'essuyait le front avec un mouchoir et marmonnait dans sa barbe. Ceux qui étaient aux premières loges répétaient aux autres ce qu'ils avaient entendu. Dans son marmonnement, il était toujours question d'impôts et de corvées. De quoi d'autre peut bien parler un administrateur? Parfois, nous avions la visite de Mamie, notre roi, le roi des Bangs. Il était paré de colliers et de bracelets qui faisaient un bruit creux. Mamie n'avait aucun pouvoir, mais il disait que le jour où il récupérait le trône, les Bangs prendraient leur revanche. Ils battraient les Angras qui les avaient chassés des rives poissonneuses de l'Aruwimi. Mamie secouait la main, un son creux résonnait. Cet homme ne parlait pas comme les autres, il a dit.
Notre tribu n'est pas seule. Il existe une famille de tribus, et cette famille s'appelle la nation congolaise.
Nous devions tous être frères. L'union faisait la force. Il a parlé longtemps, la nuit est tombée, et avec elle, les ténèbres. Les ténèbres ont emporté tous les visages. On ne voyait plus que les paroles de cet homme. Elles étaient claires, nous les distinguions parfaitement. Il a dit.
Y a-t-il des questions ?
Silence. D'habitude, celui qui pose des questions est passé à tabac. Aussi, tout le monde se taisait. Finalement, un homme s'est écrié. « Et toi, comment t'appelles-tu »«
Moi ?»
a dit l'homme en riant.
« Je m'appelle Lumumba. Patrice Lumumba. »
« Comment est-il ? Grand. Souple. Il s'essuie le front de ses longs doigts nerveux. Il a un visage qui plaît, car il est sombre, mais ses traits sont européens. Patrice parcourt les rues de Léopoldville. Il s'arrête, fait demi-tour, repart. Il est seul. Il réfléchit à son grand monologue.
Le jour de l'indépendance, le roi Baudouin se rend à Léopoldville, la capitale du Congo, ainsi nommée en l'honneur de son grand-père, le roi Léopold II. Il est ici pour remettre aux Congolais la colonie qui a été créée par son ancêtre il y a près d'un siècle. L'ami et conseiller de Lumumba, Jean Van Lierde, montre à ce dernier le texte du discours du roi Baudouin. Il n'est pas prévu que Lumumba prenne la parole.
Et tu verras, c'est imbuvable. Tu dois prendre la parole. Eux sont là, qu'à 3 mètres de toi. Quand c'est terminé, tu te lèves et tu corriges ce discours paternaliste.
La République du Congo a été proclamée. Et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voies honorables étaient réservées au seul blanc. Nous avons connu que notre fils polié, au nom des textes prétendument légaux, qui ne faisait que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Que nous n'étions admis dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins d'Européens, que nous avons voyagé à même la coque de péniche, au pied du blanc dans sa cabine de luxe, qui oubliera enfin les fusillades où périt tant de nos frères. Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais d'un de ces noms ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fit des larmes, des feux et des sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes. car ce fut une lutte noble et juste. Une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans de régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Quand nous avons connu le travail harassant, exigé en échange des salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive le Congo indépendant et souverain.
Nous sommes assis un soir dans la pièce où entre Cambi. Il a un visage que je préférerais ne plus revoir. Il dit sourdement
« Patrice Lumumba est mort ».
J'ai cru que le plancher allait s'effondrer et que nous allions nous retrouver deux étages en dessous. J'ai regardé Cambi. Il ne pleurait pas, il ne montrait pas le poing. Il était désemparé. C'est un spectacle fréquent dans ce pays, un homme qui est désemparé. Car il est ministre et il ne sait que faire, car son parti s'est dispersé et il ne sait pas comment le ressouder, car il attend de l'aide et l'aide ne vient pas. Cambi s'est assis et s'est mis à répéter en boucle, machinalement, comme s'il récitait son chapelet.
Ce sont les Belges, ce sont les Belges, les Belges.
Je tends l'oreille, la ville gronde. Va-t-il y avoir des coups de feu, des représailles? Mais Stanley vide est sombre, morte et muette. Personne n'a embrasé de bûcher, personne n'a sorti son couteau.
Le 5 septembre 1960, nous avons révoqué le Premier ministre, M. Patrice Lumumba, et certains autres ministres.
Lumumba destitue à son tour le président Kassavubu. Mais il est trop tard. L'armée n'est plus avec lui. L'ambassade américaine vient de payer la solde des soldats avec des billets neufs. Ironie de l'histoire. L'histoire n'a pas d'ironie. Elle règle ses comptes. Malgré les critiques de ses amis, Lumumba avait gardé Mobutu près de lui.
Patrice Lumumba est capturé en décembre 1960 par les troupes du colonel Mobutu, que nous écoutons.
Au nom de l'armée nationale, je peux vous garantir que pour moi, M. Lumumba est un homme fini.
Vous pensez donc qu'il n'a plus aucun rôle politique à jouer au Congo ?
Il est bien là où il est pour le moment, n'est-ce pas, en attendant son jugement.
Et ce même jour, 3 décembre, le commentaire d'un journaliste français, témoin de l'arrestation.
Voici M. Patrice Lumumba qui descend. Il est vêtu d'une chemisette. Il a toujours sa petite barbe, une chemisette assez sale. Un pantalon bleu. Il a les mains attachées derrière le dos avec une corde. Il a l'air assez triste d'ailleurs. C'est la première fois, puis-je dire, que l'on voit M. Lumumba toujours si sûr de lui, toujours si triomphant, être aussi abattu. Je crois que cette fois-ci, il est vraiment très touché par les événements et par cette arrestation.
Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba est assassiné.
Le poète Aimé Césaire l'avait surnommé le Verbe. Avec la parole pour seule arme, Patrice Lumumba fut le grand artisan de l'indépendance du Congo belge en 1960. Élu Premier ministre, il doit pourtant fuir le pouvoir après le coup d'état du général Mobutu. Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba est fusillé au Katanga, une province séparatiste. La Belgique est accusée d'avoir piloté l'opération, la CIA est également montrée du doigt. A l'époque, Larry Devlin était chef de mission de l'agence américaine au Congo. Cet homme réputé proche de Mobutu aurait reçu des instructions très précises.
Un jour, je sortais de l'ambassade. Un homme qui était attablé à un café du coin s'est levé. Il a commencé à marcher vers ma voiture, à mes côtés. Je lui ai demandé, et qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, eh bien, Eisenhower veut que tu assassines Lumumba.
Larry Devlin n'exécutera pas les ordres, mais son témoignage confirme le rôle de la CIA au Congo. À l'époque, les États-Unis craignaient notamment l'influence de l'Union soviétique sur le Premier ministre Lumumba. En 2002, la Belgique a présenté ses excuses pour la mort de Lumumba. Le rôle de la CIA, lui, reste obscur.
Cambi, as-tu vu Lumumba ?
Non, Cambi ne l'a pas vu. Mais il peut l'entendre. Lui et son ami Ngoy apportent un magnétophone. Ils le branchent, la bande se met à tourner. Discours de Lumumba au Parlement.
À l'agression de la Belgique, à la violence du gouvernement belge, nous avons répondu par la non-violence, par notre calme. Notre peuple n'a pas du tout participé à ces incidents. Ce fut une révolte légitime des militaires contre les derniers vestiges du colonialisme. Les Belges, en nous accordant l'indépendance, croyaient que cette indépendance ne pouvait signifier autre chose que l'installation d'un gouvernement fantoche qu'ils pouvaient manœuvrer à leur gré.
Cambi augmente le volume.
Ils ont voulu me corrompre, m'acheter. J'ai refusé.
Maintenant, Patrice parle à pleine voix. Les fenêtres sont ouvertes et la rue entend ses paroles. Mais la rue est vide. Et les portes sont fermées. Patrice s'adresse à une rue vide. Il ne s'en rend pas compte. Il ne le voit pas. Il n'y a que sa voix.
Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants. Pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté.
Cambi l'écoute sans arrêt, comme de la musique, le front appuyé sur la main, les yeux fermés. La bande tourne lentement avec un léger bruissement. Patrice est tranquille. Il commence sans émotion. Avec sécheresse même. Pour le moment, il donne des informations. Il présente la situation. Il parle clairement, avec un accent marqué. Il prononce soigneusement chaque syllabe, comme un acteur qui garde toujours présent à l'esprit les derniers rangs de la salle. Soudain, sa voix s'élève, vibre, devient perçante, tendue, un peu hystérique. Patrice attaque les forces d'intervention. On entend un coup léger. Il frappe la table de la main pour donner du poids à ses arguments. L'attaque est violente, mais brève.
Indépendance yetu, uhuru ya Congo.
Blanc sur la bande, rythmé par le bourdonnement lancinant de l'appareil. Cambi, qui jusqu'à présent a retenu son souffle, reprend sa respiration. De nouveau Patrice. Une voix basse, ralentie, des pauses entre les mots. Un ton empreint d'amertume et de déception. Il parle la gorge serrée. Il s'adresse à une salle en ébullition. On croirait une diète de nobles. La contestation va commencer. Personne ne crie. La salle est silencieuse. Patrice l'a reprise en main. Il explique, persuade. Sa voix se fait murmure. Cambi se penche sur la bande. Il écoute les confidences du leader. Murmure, murmure, bourrissement de la bande, et encore murmure. Respiration. On n'entend pas la salle. La salle se tait. La rue est déserte. Le Congo est invisible. Lumumba n'est pas là. La bande tourne. Cambi écoute. La voix reprend de la couleur, de la puissance, de la tension. L'agitateur se dresse sur la tribune. C'est sa dernière chance de les convaincre, les conquérir, les enthousiasmer. De faire pencher la balance de son côté. La bande tourne, invasion folle des mots. L'unité, l'unité. Les arguments se bousculent, les phrases s'enflamment. Pas de retour en arrière. Il faut aller là où se trouve notre Uhuru, notre indépendance. Il faut aller là où se trouve notre colonne vertébrale, notre espoir, le Congo, la victoire.
Indépendance yetu, uhuru ya Congo.
Le feu a pris. La bande sort du rouleau.
J'ai entendu parler Nasser. J'ai entendu parler Nkrumah. J'ai entendu parler Sékou Touré. Et maintenant, j'entends Lumumba. C'est impressionnant de voir l'Afrique les écouter. C'est impressionnant de voir la foule se rendre à un meeting. Solennel, ému, le regard enfiévré. Il faut avoir les nerfs solides pour supporter le moment où la foule accueille chacun d'entre eux avec des cris extatiques. Il est bon d'être parmi eux, d'applaudir, de rire et de se fâcher avec eux. Là, on sent vraiment leur patience et leur force, leur dévouement et leur menace. En Afrique, un meeting est toujours une fête populaire, joyeuse, pleine de dignité, comme la fête des moissons. Les sorciers font des exorcismes, les imams lisent le Coran, des orchestres jouent du jazz, le vent éparpille du papier crépon, des marchandes vendent des crécelles, et sur la tribune, les grands parlent de politique. Nasser parle d'un ton ferme, expressif. Il est toujours dynamique, impulsif, autoritaire. Touré taquine la foule, la conquiert par la sérénité, un sourire permanent, une nonchalance subtile. Nkrumah est pathétique, concentré. Il a les manières d'un prédicateur qu'il a gardé de l'époque où il prononçait des sermons dans les églises noires en Amérique. Enivré de la parole de ses leaders, la foule se rue sur la voiture de Gamal, soulève celle de Sékou, se brise les côtes pour toucher celle de Kwame. Carrière fulgurante, grand nom. Réveillée, l'Afrique a besoin de personnages illustres, en guise de symboles, de ciment, de dédommagement. Pendant des siècles, l'histoire de ce continent a été anonyme. Pendant 3 siècles, des marchands ont exporté du continent africain des millions d'esclaves. Qui pourrait citer un nom de victime ? La lutte contre l'invasion blanche a duré des siècles. Qui pourrait mentionner le nom d'un combattant ? Quel nom évoque les souffrances de ces générations de Noirs ? Quel nom évoque le courage de ces tribus massacrées ? L'Asie a eu Confucius et Bouddha, l'Europe Shakespeare et Napoléon. Mais le passé de l'Afrique n'offre au monde, ni même à l'Afrique, pas un seul nom. Or, voilà que depuis que l'Afrique s'est mise en marche, chaque année ou presque semble vouloir rattraper le retard accumulé, marquant l'histoire de noms nouveaux. Gamal Nasser pour l'année 56, Kwame Nkrumah pour 57, Sékou Touré pour 58, Patrice Lumumba pour 1960. Aucun d'entre eux ne grimpe péniblement l'échelle des promotions gouvernementales, ne compte ses voix, ne s'incline devant ses protecteurs. Tous sont emportés au sommet par la vague de la lutte pour la libération. Tous sont les enfants de l'époque des tempêtes et des pressions. Tous sont nés des aspirations et des désirs de leur pays et du continent tout entier. Et tous seront d'une certaine manière des dirigeants à l'échelle de l'Afrique. Chacun aura l'ambition de faire de sa capitale la Mecque du continent noir.
Ce groupe de 4 ne se rencontrera jamais. Lumumba n'en aura pas le temps. Toute la biographie de cet homme se réduit à la formule « il n'aura pas le temps ». À l'époque où Kasavubu ou Bolikango font péniblement la conquête de leur clientèle, Lumumba est encore invisible, car ou il est trop jeune, ou il croupit en prison. Tandis que ceux-là pensent à leur cour locale, lui pense au Congo tout entier. Le Congo est un océan, une énorme fresque tout en contraste. De petits groupes de gens vivent éparpillés dans l'immense jungle et la vaste savane, souvent sans se connaître et sans savoir grand-chose sur eux-mêmes. 6 personnes au kilomètre carré. Le Congo est aussi étendu que l'Inde. Il aura fallu 20 ans à Gandhi pour parcourir l'Inde. Lumumba a essayé de parcourir le Congo en 6 mois. C'est absolument impossible.
Pourtant, au Congo comme en Inde, c'était le seul moyen, traverser le pays. Passer dans chaque village, s'arrêter dans chaque petite ville, et parler, parler, parler. Les gens veulent voir leur leader, ils veulent l'entendre au moins une fois. Qui sait, c'est peut-être l'homme du mal, ou un homme sans Dieu, il faut le voir. Qu'il s'exprime. Après, on décidera si oui ou non, c'est un dirigeant digne de ce nom. Dans d'autres pays, les leaders ont à leur disposition la presse, la radio, le cinéma ou la télévision. Ils ont une équipe.
Lumumba n'a rien de tout cela. Tout est la propriété des Belges. Quant à son équipe, elle n'existe pas. Quand bien même il aurait un journal, combien de gens le liraient ? Quand bien même il aurait une station de radio, combien de foyers disposeraient d'un récepteur ? Il faut donc parcourir le pays.
Comme Mao, Gandhi, Nkrumah et Castro. On peut tous les voir en habits de paysans sur de vieilles photos. Mao en blouse de toile serrée à la taille, Le Mahatma en dhoti, d'où dépassent ses jambes maigres. Kwame, avec son kanté brodé jeté sur ses épaules. Fidèle, dans une chemise de partisan râpé.
Lumumba est toujours tiré à quatre épingles. Chemise d'un blanc éclatant, col à midonnée, bouton de manchette, nœud de cravate à la mode, monture de lunettes coûteuses. Ce n'est pas le style du peuple, c'est celui des gens évolués qui imitent les Européens. Quand Nkrumah voyage en Europe, il arbore le costume africain. Quand Lumumba se rend au village, il arbore le costume européen. Peut-être n'est-ce pas intentionnel, c'est du moins perçu comme tel. Du reste, Patrice va peu au village. Ce n'est pas un meneur paysan, ni même un meneur ouvrier. C'est un enfant de la ville. Loin d'être une concentration prolétarienne, la ville africaine est bon gré mal gré constituée d'une population d'employés et de petits bourgeois. Patrice a justement commencé sa carrière avec la ville, non pas avec le village. Non pas avec les paysans, mais avec ceux qui, hier encore, étaient des paysans. Et cela fait une différence. L'homme qui arrive directement de la jungle sur le boulevard Albert à Léopoldville est comme ivre. Le contraste est trop fort, le saut trop violent. Jusqu'alors, il vivait paisiblement dans sa tribu, où tout était compréhensible. L'organisation tribale a au moins le mérite de lui donner l'équilibre. Il sait que lorsqu'il se trouve dans la situation X, il doit en sortir de la manière Y. Car tel est l'usage. Mais à la ville, il se retrouve seul. À la ville, il y a un patron, un propriétaire et un boutiquier. Pour lui, ce sont des étrangers. Les uns donnent de l'argent, les autres en réclament. Ces derniers sont plus nombreux, et c'est bien là le malheur. Tout le monde est indifférent. Quand il n'y a plus de travail, il faut aller ailleurs. On va dans les bars.
À vrai dire, la carrière de Lumumba commence dans les bars. On estime que dans les quartiers d'argile de Léopoldville, il y en a 500. Le bar africain n'a rien à voir, par exemple, avec le bar Loviki à Varsovie. Au Loviki, on fait la queue, on prend sa dose, ses 100 grammes de vodka, on croque son concombre au sel et on s'en va. Si on veut reprendre une dose, on refait la queue. C'est la cohue, la précipitation. Aucune place pour la convivialité. Mon café favori en Afrique s'appelle Alex. Les noms sont souvent très coquets. Pourquoi pas ? Ou tu as perdu ton chemin ? Ou seulement toi ? Récemment sont apparues des enseignes carrément pathétiques. Indépendance, liberté, lutte, etc. Alex est une petite baraque de plein pied, décorée comme une auberge un jour de noces, avec des couleurs criardes et extravagantes. Placardée de réclames de Coca-Cola, de Martel et de Shell, elle se trouve au cœur d'une palmeraie. Le matin, il n'y a personne, mais le soir, elle attire toute une foule de clients qui s'installent à de petites tables en fer sur des chaises en fer pour siroter leur bière. Sans bière, point de salut. Il y a beaucoup de bouteilles et beaucoup de verres. Les capsules tombent sur le sol dans un tintement de ferraille. Avec ces capsules, les filles fabriquent des ceintures dont elles se saignent les hanches. Elles défilent et les capsules carillonnent. Ce cliquetis est censé exciter. Sans jazz, point de salut. Des chanteurs à la voix éraillée, Armstrong à la voix éraillée, des disques si usés qu'on n'entend plus rien sauf ces sons éraillés. Mais le bar danse. Peu importe que tout le monde soit assis, regardez les pieds, les épaules, les mains. Que l'on discute, se dispute ou flirte, que l'on règle des affaires, lise la Bible ou somnole, le corps danse constamment. Le ventre ondule, la tête se balance. Tout le bar se balancera ainsi jusqu'à une heure tardive. C'est une deuxième maison. Chez soi, on ne peut pas rester assis, car il n'y a pas de place. C'est la grisaille et la misère. Les femmes se querellent, les mômes pissent dans les coins. Et puis, il n'y a pas de papier crépon, ni la voix d'Armstrong. La maison, c'est une contrainte. Alors que le bar, c'est la liberté. De plus, le mouchard blanc ne fréquente pas les bars, car on le reconnaît à 1 km à la ronde.
On peut donc y aborder n'importe quel sujet. Au bar, il y a toujours beaucoup de monde. Le bar, c'est le lieu des débats, des discussions, de la philosophie. Le bar s'empare d'un sujet, l'examine, le retourne dans tous les sens pour parvenir à la vérité. Tout le monde s'en mêle, peu importe le thème de la discussion. Ce qu'il faut, c'est participer, s'exprimer. Le bar africain, c'est le forum de la Rome antique, la place du marché d'une petite cité médiévale, la cave à vin de Robespierre. C'est là que naissent les opinions, idolâtres ou destructrices. C'est là que l'on est hissé sur un piédestal ou précipité sur la terre battue. Si le bar est enthousiaste, on fera une carrière immense. Mais si le bar se moque, on peut retourner dans la jungle. Au milieu des vapeurs de la bière mousseuse, de l'odeur irritante des filles, du brouhaha des tam-tams, les noms, les dates, les phrases et les jugements s'entrecroisent. On étudie un problème, on y réfléchit, on pèse le pour et le contre. Une main s'agite, une femme nourrit son bébé, un rire éclate. Ragots, fièvre, foule. Ici, on s'entend sur le prix d'une nuit. Là, on établit le programme de la révolution. À côté, on recommande un bon sorcier. Plus loin, on raconte l'histoire d'une grève. Dans un bar, vous avez tout à la fois. Le club et le monde-piété. Le lieu de promenade et le porche d'église. Le théâtre et l'école. Le bistrot et le meeting. Le bordel et la cellule de parti. Le bar est incontournable et Lumumba l'a parfaitement compris. Lui aussi s'arrête pour prendre une bière. Patrice n'aime pas se taire. Il sent qu'il a quelque chose à dire et il veut se faire entendre. Patrice est un orateur inspiré, génial. Il commence par parler de tout et de rien. Ici, personne ne le connaît. C'est un visage étranger. Il n'appartient ni à la tribu des Bangala, ni à celle des Bakongo. Par ailleurs, il ne prend parti pour aucune tribu. D'après cet étranger, il y a seulement un Congo. Le Congo, c'est un thème immense. On peut en parler sans fin, sans jamais se répéter. De plus, c'est un thème qui se laisse bien écouter. Et le bar se met à écouter. Pour la première fois, le bar se tait, se calme, devient grave. Il tend l'oreille, réfléchit, compare avec son propre point de vue. « Notre pays est immense, » explique Patrice. « Il est riche et beau. Il pourrait devenir une puissance si les Belges s'en allaient. » Comment s'opposer aux Belges ? Par l'union. Que les Bangalas cessent de mettre des serpents dans les cases des Bakongo. Cela ne fait qu'engendrer des querelles et il n'y a pas de fraternité. Vous n'avez pas de liberté et vos femmes n'ont pas de quoi acheter un régime de bananes. C'est pas une vie. Patrice s'exprime avec simplicité. À ces gens, il faut parler avec simplicité. Il les connaît. Lui aussi vient du village. Il comprend ces hommes qui n'ont pas la notion du temps, qui sont désemparés, désorientés, déroutés et qui cherchent dans le monde nouveau de la ville un soutien. Une planche de salut à laquelle se raccrocher pour reprendre haleine et replonger ensuite dans le tourbillon des visages, le tohu-bohu du marché, l'oisiveté quotidienne. Quand on discute avec ces gens, on se rend compte que tout dans leur esprit est incroyablement emmêlé. Le réfrigérateur et les flèches empoisonnées, De Gaulle et Ferrat Abbas, la peur du sorcier et l'enthousiasme pour le Spoutnik. Lorsque les Belges ont envoyé leurs forces d'intervention au Congo, ils ont ordonné à leurs soldats de revêtir l'uniforme des parachutistes. Je me cassais la tête pour comprendre. Et j'ai fini par prendre conscience qu'ici, les paras font peur. En Afrique, les gens craignent celui qui tombe du ciel. Pour eux, ce n'est pas n'importe qui. Il doit y avoir quelque chose derrière et mieux vaut ne pas approfondir. Patrice est le fils de son peuple. Lui aussi est parfois naïf et mystique. Lui aussi passe facilement d'un extrême à l'autre. De l'explosion de bonheur au désespoir muet. Lumumba est une personnalité passionnante, car excessivement complexe. Rien chez cet homme ne se prête à une définition. Toute formule est étroite. Homme inquiet, tête brûlée, poète sentimental, politique ambitieux, âme spontanée, arrogante et en même temps soumise, jusqu'au bout sûr de son bon droit, sourd à la parole d'autrui, captivé par sa propre voix.
L'avenir du Congo, je l'envisage dans ce sens. C'est de maintenir l'unité politique et économique du pays qui seule fera la grandeur de notre pays. Nous voulons que le Congo occupe une place prépondérante dans le cadre des États libres d'Afrique. Parce que si nous perdions l'unité du pays, c'est l'effondrement de la nation. C'est le retour en arrière. Si nous avons de grandes puissances aujourd'hui, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Union soviétique, c'est parce que ces pays sont de grands pays. Et c'est ça que nous voulons garder au Congo. Et sur le plan politique, nous voulons avoir un gouvernement central, unitaire. Et au sein de ce gouvernement central, vous avez des ministres qui viennent de différentes provinces du Congo. Et sur le plan administratif, avoir des provinces, de sorte que ces provinces vont jouir d'une autonomie administrative pour la gestion de leurs propres affaires. Et sur le plan économique, mettre en valeur les richesses du pays grâce à la mobilisation de toutes les énergies du pays et pour la mise en valeur du pays, nous comptons également sur le concours des autres puissances de la Suisse, de la France, de la Belgique. Le Congo est un grand pays qui doit encore être développé. Et je pense que si nous pouvons compter sur le concours, la collaboration des autres, et tout en faisant un effort nous-mêmes sur place, nous pouvons faire du Congo dans 5 ans, dans quelques années, une puissance, une nation prospère et stable.
Lumumba séduit les barres. Dès le premier jour, il les met dans sa poche définitivement. Patrice parle toujours avec conviction. Or, ces gens veulent être convaincus. Ils veulent se doter d'une nouvelle foi, car la foi tribale a été ébranlée. Chez nous, autrefois, on disait « Camarades, ce ne sont pas les slogans qu'il nous faut, mais une orientation. » C'est justement ce que Lumumba propose dans les bars. Il enseigne, montre, prouve. Les gens acquiescent et applaudissent. « Il a raison, s'écrie-t-il, il a raison !» Et aujourd'hui, quand le Congo évoque son nom, il répète le même refrain. L'air rêveur. Oui, il avait raison.
Afrique, Afrique, oui, Afrique, où résonne le tam-tam de la liberté.
1961.
Liberté, liberté, oui, liberté, liberté au pays d'Afrique.
Cette émission sur Patrice Lumumba, acteur majeur de l'indépendance du Congo-Kinshasa, a été réalisé par Anouk Battard à partir de la lecture d'un extrait du livre « Il n'y aura pas de paradis » écrit par le journaliste polonais Kapuscinski. Merci à Johanna Tsipkin d'avoir prêté sa voix pour une partie de cette lecture.